en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Où en sont les études chinoises ? La sinologie, qui est une science jeune, se heurtant aux profondes transformations de la société chinoise, peut-elle encore s'exercer avec des conditions de recherche sereines ? Quelle place les sinologues accordent-ils à l'histoire de la Chine ? Telles sont quelques-unes des questions abordées par Jean-François Billetter, professeur émérite de l'Université de Genève, qui a tenu la première chaire d'études chinoises lors de sa création à Genève en 1993. Il est correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques. Il a donné sa communication devant les académiciens réunis en séance le lundi 21 mai 2012. Elle est intitulée « Le passé chinois du point de vue de la philosophie politique ». Entrez grâce à Canal Academy dans la salle des séances. Vous entendrez d'abord la présidente pour l'année 2012, Marianne Bastide-Bruguière, elle-même sinologue, qui présente, en le résumant, le parcours de Jean-François Billetter.
Dans le tour géographique des pays émergents que nous avons entamé la semaine dernière avec le Brésil, la Chine doit occuper évidemment une place importante. Son rôle mondial est aujourd'hui si considérable que certains d'entre vous m'avaient même suggéré de lui consacrer une année entière. Je n'ai pas suivi cette proposition par crainte de vous lasser, et surtout parce qu'il me semblait qu'une étude très spécialisée et exclusive sur un domaine extra-européen ne correspondait pas à la vocation profonde de notre Académie. Nous devons cependant réfléchir sur la puissance chinoise dont l'influence se fait sentir dans tous les domaines, sur toute la planète. Et pour cet examen, j'ai jugé superflu de traiter les aspects purement économiques, financiers ou de conjoncture politique sur lesquels l'information donnée par la presse et les médias est surabondante et quotidienne, même si elle n'est pas toujours fiable. Il m'a semblé plus utile d'envisager certaines questions de fond plus rarement abordée par les commentateurs, d'envisager des tendances lourdes, des forces profondes qui sont à l'œuvre dans l'évolution actuelle de la société ou dans l'évolution de l'esprit de la population. En effet, une meilleure connaissance de ces éléments aide, je pense, à mettre en perspective, à évaluer les remous de l'actualité. Notre confrère, membre correspondant de notre académie, Jean-François Billetter, professeur émérite à l'Université de Genève, m'a proposé de vous faire une communication sur le passé chinois du point de vue de la philosophie politique, réflexion présente. Je l'en remercie. Il m'a semblé que cet exposé serait une introduction appropriée et originale, féconde, à nos réflexions sur la Chine d'aujourd'hui. Jean-François Billetter est un de nos plus illustres sinologues européens et, bien que je le connaisse depuis 50 ans, il me pardonnera de le vouvoyer en ces circonstances. Il connaît que nous avons certains rites dans cette assemblée. Jean-François Billetter a fait des études de lettres à Zurich et à Genève. Il a passé plus de 10 ans en Chine et au Japon à travailler, faire des recherches, comparer aussi bien le passé chinois que le passé japonais, avec le passé européen aussi. Il a occupé la chaire d'études chinoises à l'Université de Genève dès la création de cette chaire en 1987, jusqu'au moment où il a pris une retraite mais purement académique en 1999, car il a continué à être fort actif dans la recherche. La thèse de Jean-François Billetter, à l'origine, portait sur un penseur de la fin des Ming, de la fin du XVIe siècle, Li Zhe, un penseur extrêmement original, philosophe maudit, l'a-t-il qualifié dans le titre du livre qu'il a tiré de cette thèse, paru en 1979. Ce Li Zhe avait connu Matteo Ricci, avait eu des dialogues extrêmement fructueux avec lui, mais il confiait qu'il ne comprenait pas comment Ricci, un homme si intelligent, si cultivé, pouvait professer des croyances religieuses aussi irrationnelle et invraisemblable que celle du christianisme. Il n'avait donc pas été converti. Jean-François Bilter s'est fait connaître d'un plus vaste public par un ouvrage qui a eu beaucoup de succès et qu'il a réédité d'ailleurs récemment, L'art chinois de l'écriture, où il explique les fondements et toute la philosophie de la calligraphie chinoise. Et puis, il s'est tourné vers des travaux de réflexion générale sur la pensée chinoise. Un des livres qu'il a publié s'appelle « Chine trois fois muette », publié chez Alia en 2000, et également vers des travaux de recherche, de traduction sur les penseurs anciens, en particulier sur Zhuang Zi, qui est un des penseurs les plus originaux de l'Antiquité chinoise. En 2006, son pamphlet contre François Julien a fait parler les gazettes, même les moins sinologiques. Mais un des grands apports de Jean-François Bilter, c'est d'avoir réussi à inventer des mots et des concepts qui permettent en langue française de faire passer les intuitions et les expériences privilégiées par la pensée chinoise et d'atteindre un niveau de dialogue critique qui soit universel, sans ériger la Chine en altérité absolue, mais en arrivant à trouver des passerelles qui permettent d'accéder à certaines spécificités qui, à première vue, nous surprennent. Je vous donne donc la parole et nous vous écouterons avec plaisir et fruit, j'en suis sûr.
Madame le Président, Mesdames, Messieurs, cela fait tout juste 50 ans que j'ai commencé à étudier le chinois et fait de la Chine mon principal objet d'étude. Le chemin parcouru est stupéfiant. Je ne parle pas du mien, mais de celui des études chinoises. Il n'y a pas de commune mesure entre alors et aujourd'hui. Quant aux moyens dont elle dispose, au nombre de gens qui s'y consacrent en France, en Europe et dans le monde, à l'intensité des échanges avec la Chine même, aux connaissances qu'elles ont accumulées et continuent à produire chaque jour. Les études chinoises ont aussi connu d'étonnantes transformations liées à l'histoire de ces 50 dernières années. Je parle du sens qu'elles avaient dans l'esprit de ceux qui s'y engageaient, du champ magnétique dans lequel elles étaient prises et qui leur donnait leur orientation. Ce champ magnétique a changé plusieurs fois. Si je m'en tiens à ma propre expérience, il y a eu dans les années 60 la fascination exercée par l'idée d'une révolution qui se radicalisait, accompagnée de la fascination non moins grande émanant d'un passé monumental qui semblait coupé du présent. Dans les années 70, au lendemain de la révolution culturelle, une opacité totale et la faillite manifeste des schémas d'explication marxiste qui avaient eu cours. Dans les années 80, un réveil extraordinaire de la vie intellectuelle en Chine, au cœur de laquelle se faisait jour une interrogation toute nouvelle sur le rapport entre le passé chinois dans la longue durée et les catastrophes récentes. Ces années ont aussi été fastes parce qu'elles ont vu renaître des échanges entre intellectuels chinois et sinologues occidentaux, lesquels étaient écoutés parce qu'ils avaient quelque avance sur le plan des méthodes et du débat sur certaines questions de fond. Une période néfaste a suivi dans les années 90, néfaste à plusieurs titres. Le régime de Pékin, devenu ouvertement réactionnaire à la suite de la répression de juin 89, a mis brutalement fin au débat portant sur le rapport entre le passé et le présent. Période néfaste parce que les dirigeants chinois ont lancé en même temps le miracle économique qui a stupéfié le monde, mais qui a eu pour effet d'imposer le discours économique comme le seul discours pertinent sur la Chine, avec l'amnésie qui en est le concomitant. Chez nous, cela convenait aux hommes d'affaires qui ont donné dès lors le ton. Les communications, le tourisme de masse ont fait le reste. Il est devenu facile d'aller voir le pays et de se contenter du peu qu'on y a vu. Durant les dernières décennies, le développement d'une société de le développement d'une société de consommation calquée sur la nôtre a encore réduit l'écart, en apparence du moins, tandis que le régime, de plus en plus nationaliste, s'est mis à répandre, en Chine même et au dehors, une vision de la grandeur passée de la Chine tellement indigente qu'elle tue toute curiosité pour l'histoire. L'ouverture de la Chine a certes amené une multiplication des échanges sur le plan intellectuel, mais leurs effets sont restés presque nuls ici et limités à des cercles très restreints en Chine. Il est possible que la décennie dans laquelle nous sommes apporte une nouvelle transformation, peut-être radicale, qui sait. Beaucoup de citoyens chinois ont des ressources morales et intellectuelles qui ne peuvent se manifester actuellement. La façon dont je viens de caractériser ces phases successives paraîtra hâtive et discutable, surtout à mes collègues sinologues. Mais mon intention, en vous passant le film en accéléré, si je puis dire, était uniquement de montrer comment s'est modifié, au cours de cette période, le champ magnétique dans lequel s'inscrivaient les études chinoises ou le climat dans lequel elles évoluaient. Je sais que certains travaux d'érudition, certaines recherches au long cours, se poursuivent loin de l'actualité. Elles n'en trouvent pas moins leur justification par leur insertion dans l'histoire vivante, quoiqu'à une autre échelle. Si je m'en tiens à ma propre expérience, qui a été celle d'un enseignant plus que d'un chercheur, mais aussi celle d'un sinologue lié à la Chine par des liens personnels, ces modifications du champ ont chaque fois entraîné une modification du rapport au passé. Le signe sous lequel on a placé l'étude de l'histoire chinoise, les questions que l'on s'est posées à son sujet, ont chaque fois changé. Il a chaque fois fallu que j'abandonne des points de vue dépassés et que je fasse droit à des préoccupations nouvelles pour moi-même et pour mes étudiants. Quand je me retourne sur ces 50 années, je suis pris d'un léger vertige. Il me semble que, malgré mon souci d'être rigoureux et de travailler dans la durée, j'ai été soumis à un perpétuel changement. Sentiment que Su Tongpo, au XIIe siècle, résumait en quelques vers, dont voici une traduction en prose. « Je vis dans ce monde, dit le poète, comme une fourmi perdue sur une meule, voulant courir à droite tandis que la meule tourne à gauche. » Depuis quelques années, j'ai l'impression qu'un nouveau changement s'opère. Pour m'exprimer sans embâge, j'ai le sentiment que les études chinoises ont perdu leur sens, ou du moins perdu celui qu'elles ont eu pour moi et pour ma génération. Comme si le champ qui leur donnait leur orientation était pour le moment démagnétisé. Je ne vois plus de fascination émanant d'un passé chinois supposé coupé du présent ou foncièrement différent d'une autre. Nul n'interroge plus ce passé pour y trouver une philosophie de l'histoire destinée à justifier la révolution ou expliquer au contraire les malheurs qu'elle a engendrés. Tant mieux, diront les véritables historiens, les sinologues de métier, qui voient réunis dans cette situation nouvelle les conditions de recherche enfin sereines. Mais cette situation, si je la vois bien, entraîne aussi le recul de l'intérêt que leurs travaux sont susceptibles de rencontrer dans le public et risque de conduire à un paradoxe. Ce serait au moment où la Chine occupe dans le monde et jusque dans notre vie quotidienne une place sans précédent, que son histoire cesserait d'occuper la moindre place dans notre culture. Ce serait au moment où les études chinoises connaissent un développement considérable qu'elle cesserait de contribuer en quoi que ce soit au bien commun. Suis-je seul à éprouver ce sentiment ? En attendant d'être fixé sur mon cas, j'irai jusqu'au bout de ma pensée. Selon moi, cette situation s'explique. Le développement des études chinoises a entraîné une spécialisation de plus en plus étroite, en même temps que des exigences scientifiques de plus en plus strictes, d'où des travaux de plus en plus nombreux, mais de plus en plus difficilement assimilables par le public. Cette évolution n'est pas propre à la sinologie, certes, mais elle a dans le domaine chinois des conséquences qu'elle n'a pas dans l'étude de notre passé. Le lecteur a une connaissance de notre histoire qui lui permet d'apprécier les travaux spécialisés et d'en mesurer la portée. Quand il s'agit de la Chine, il ne sait quelle place leur assigner, quel sens leur donner. L'étude de l'histoire chinoise des 19e et 20e siècles ont un sens qui lui vient de ce que cette histoire se rattache à la nôtre. Celles des 18e et 17e siècles ont encore avec la nôtre des liens ténus, mais plus loin dans le passé. Les sinologues se séparent de plus en plus du public. Ils forment une communauté de plus en plus nombreuse, de mieux en mieux organisée à l'échelle de la planète, engagée dans des échanges de plus en plus intenses avec leurs collègues chinois. À l'intérieur de cette communauté, la question du sens ne se pose pas. Le contexte dans lequel s'inscrivent les travaux des uns et des autres est connu. Mais ils ont un sens que le public extérieur à cette communauté n'a plus le moyen de percevoir. Et les éditeurs répondent à la demande de ce public désorienté par des publications souvent très médiocres. Dans le même temps, l'enseignement de la langue chinoise se développe rapidement, mais dans un esprit purement utilitaire. Le gouvernement chinois encourage massivement cette évolution. Il l'accompagne d'un discours sur la culture chinoise traditionnelle où l'esprit critique à l'égard du passé n'a plus la moindre place. Je suis parfois saisi de découragement quand je vois se répandre les effets de cette véritable politique de l'ignorance. J'ai l'impression que les efforts que j'ai faits durant 30 ans d'enseignement sont submergés et emportés par une mer qui monte et ruine doucement un château de sable. Je crains même parfois que cette marée montante n'érode insidieusement la base de la citadelle sinologique elle-même. Mais je ne suis pas pessimiste de nature. Je m'exprime ainsi pour indiquer que les études chinoises se trouvent, une fois de plus, dans une situation nouvelle et que, si elles en tiennent compte, elles peuvent en tirer parti. Je crois qu'elles peuvent en tirer un parti qui n'intéresse pas que les études chinoises elles-mêmes, mais touche à nos rapports futurs avec la Chine. C'est en raison de cette conviction que je suis venu vous parler des études chinoises. Je ne l'aurais pas fait s'il s'était uniquement agi des problèmes internes d'une profession. La proposition que je voudrais faire ne vise pas à réformer les études chinoises, mais à leur ajouter quelque chose. C'est une proposition à laquelle pourraient être jointes d'autres propositions de même nature, j'en suis sûr. Je me bornerai aujourd'hui à mettre en avant une seule idée. Elle consiste à inviter les sinologues qui en auront le goût à envisager le passé chinois sous l'angle de la philosophie politique et de le faire avec des penseurs de la philosophie politique. Pour justifier cette idée, je ferai un nouveau retour sur l'histoire des études chinoises. À l'échelle de notre histoire, la sinologie est une science jeune. On peut distinguer dans son développement deux grandes phases. Il lui a d'abord fallu acquérir des connaissances positives sur le passé chinois. Elle ne pouvait les trouver qu'en Chine et les a acquises sous la forme que leur avaient donnée les Chinois, ou plus exactement, que leur avaient donnée les classes dirigeantes chinoises au fil des siècles, selon leur point de vue et leurs besoins. Il ne pouvait en aller autrement. Après cette longue phase d'acquisition et d'accumulation, une deuxième phase a commencé lorsque les sinologues occidentaux se sont mis à appliquer à cette énorme matière les méthodes et les finalités des sciences humaines et des sciences sociales. Cette phase est récente. Elle a pris de l'ampleur il y a un demi-siècle à peine. Elle a mené à la situation présente où les études chinoises se subdivisent en autant de disciplines qu'il y en a dans le monde académique actuel et où le terme générique de sinologie n'a plus de sens défini. Là encore, il ne pouvait en aller autrement. En Chine même, l'évolution a été différente, mais elle a abouti à une situation tout à fait comparable. Ici et là, la conséquence est la même. Les questions qui n'entrent pas dans le cadre de l'une de ces disciplines reconnues ne peuvent plus être posées ou sont mal posées lorsqu'on tâche de les cerner par des entreprises pluridisciplinaires qui sont toujours des entreprises bancales. Ces questions, justement, la philosophie politique permet de les poser. Elle permet du moins de poser certaines d'entre elles qui sont fondamentales. Est-il besoin de préciser que la philosophie politique n'est pas la science politique qui décrit les régimes et analyse leur fonctionnement ? La philosophie politique est d'abord philosophie. c'est-à-dire une interrogation soutenue et réfléchie. Elle a pour objet le politique, c'est-à-dire la constitution politique des sociétés. Elle n'est pas spéculative, car son but n'est pas de concevoir un archétype ou une typologie des sociétés humaines, et moins encore quelques sociétés idéales. Sa vocation est d'interroger l'histoire des sociétés sous l'angle de leur constitution politique. Elle ne peut se livrer à cette réflexion sans une connaissance approfondie de leur histoire. Sur la Chine, une telle réflexion eût été hasardeuse il y a encore quelques dizaines d'années. Le moment n'était pas venu. Mais les idées chinoises ont entre-temps réuni des matériaux largement suffisants. Dans cette brève communication, je dois me contenter d'indiquer les principales articulations d'une telle réflexion, ou certaines d'entre elles. Dans le « Regard politique », un livre d'entretien publié il y a 2 ans, Pierre Manant explique que, selon lui, de la fin de l'Empire romain d'Occident jusqu'à l'apparition de l'État-nation, l'Europe a été à la recherche d'un ordre politique et social stable, et que cette quête a été le véritable moteur de son histoire. Il conclut par une proposition générale qui résume sa pensée « La nature politique de l'homme est la cause de l'histoire ». Cette formule résume à elle seule toute la philosophie politique, mais ne me dispense pas de poursuivre mon exposé. Car il faut s'entendre sur le sens des notions telles que « le politique » ou « la constitution politique d'une société ». Je me tourne vers Claude Lefort, l'auteur à qui je dois le plus dans ce domaine. Il a maintes fois parlé du mode d'institution du social ou de la définition politique d'une société, désignant par là le schéma directeur qui commande sa différenciation interne et l'articulation de ses éléments, en précisant que l'un de ces éléments, quel qu'il soit, n'a de signification et n'est intelligible qu'en tant qu'il est partie de cette totalité. Pour qu'une société fonctionne, pour que ses membres puissent s'entendre et coopérer, observe Lefort, il faut qu'ils aient intériorisé le schéma directeur. Il faut qu'il y ait une correspondance entre l'idée qu'ils se font d'eux-mêmes, des rapports qu'ils ont entre eux et du tout dans lequel ils vivent. Ce tout doit en outre faire l'objet d'une représentation. C'est là l'une des fonctions principales du pouvoir. Le pouvoir organise, contrôle, contraint, certes, mais il est aussi le lieu où sont rendus visibles, d'une certaine façon, les principes qui définissent l'ensemble, qui lui donnent sa forme et son sens. Cette relation entre la forme du pouvoir et la forme de la société, prise dans son ensemble, est évidemment un sujet de réflexion majeur de la philosophie politique, et l'a toujours été. Une question que l'on s'est inévitablement posée est celle de la causalité. Est-ce la société qui, prenant forme, se donne par cristallisation, pour ainsi dire, un pouvoir à son image, ou un pouvoir qui s'impose et qui impose sa loi et crée par là un système social? Il faut évidemment se garder de trancher cette question dogmatiquement et examiner attentivement, sans prévention, la réalité historique dans chaque cas particulier. C'est ce que Claude Lefort a toujours fait pour sa part, c'est ce que Tocqueville a fait avant lui, par exemple. Dans son Tractatus Theologico-Politicus, Spinoza exprime on ne peut plus clairement le point de vue qu'il a sur cette question. C'est par la loi et les mœurs, dit-il, que chaque peuple acquiert des qualités particulières, une manière d'être spécifique et des idées qui lui sont propres. Et de démontrer, ce qui était une audace extraordinaire à son époque, que l'histoire du peuple juif, telle que la rapporte l'Ancien Testament, et jusqu'au caractère de ce peuple, ont été déterminées par les institutions à la fois remarquables et imparfaites qu'il s'est données. Dans un essai que j'ai publié une douzaine d'années, je suis parti de cette idée de Spinoza et je l'ai appliquée à l'histoire de la Chine ancienne et de l'Empire chinois. Sans doute aurais-je été mieux compris si j'avais précisé que je tenais compte de toutes les données historiques dont je disposais, mais que je me plaçais sur le plan de la philosophie politique, ce dont je n'avais pas une conscience claire à ce moment-là. Pour bien me faire comprendre, je devrais vous résumer cet essai, mais il est déjà une synthèse si serrée que je ne vois pas comment le resserrer encore plus. Je me bornerai donc à citer un passage. La dynastie royale des Zhou, nous sommes un peu avant l'an 1000 avant notre ère. La dynastie royale des Zhou a été fondée à la suite d'un soulèvement contre la dynastie précédente, celle des Shang. Le premier roi Zhou a vaincu les Shang parce qu'avant de se soulever, il s'était assuré l'appui de puissants alliés. Au lendemain de sa victoire, il lui a fallu les payer de retour. Il leur donna des fiefs, Mais cela ne suffisait pas. Il fallait encore trouver le moyen de transformer l'alliance de circonstances qui les avait réunis en une alliance permanente, en un ordre institutionnel stable. Avec ses conseillers, le fondateur de la nouvelle dynastie trouva à ce problème une solution remarquable. Ils réinterprétèrent les relations que le roi entretenait avec ses alliés en relations familiales. Ils seraient tous frères, les rapports d'aînesse entre ses frères seraient des rapports hiérarchiques, et le roi aurait le pouvoir sur ses frères parce qu'il serait l'aîné. On ne pouvait mieux faire pour assurer la prééminence du roi et la cohésion du groupe. Les fondateurs des Zhou ne s'arrêtèrent pas là. Pour que le nouvel ordre fût durable, ils décidèrent selon quelles règles les privilèges ainsi distribués seraient transmis. Et comme il était aisé de prévoir que cette famille aristocratique allait croître et se multiplier, et que cette multiplication allait mettre sa structure familiale en danger, ils développèrent cette structure de façon à ce qu'elle pût s'étendre sans que jamais ne s'y introduisît le moindre désordre. Ils créèrent un système susceptible d'organiser une famille de plusieurs dizaines ou de plusieurs centaines, voire de plusieurs milliers de membres, appartenant jusqu'à 4 générations simultanées, sans que jamais, entre 2 quelconques de ses membres, l'ordre de préséance ne fût ambigu. Ils forgèrent une nomenclature qui permettait d'identifier exactement la place de chacun dans cette hiérarchie générale. Ne serait-ce que d'un point de vue purement formel, ce système est à coup sûr l'une des grandes créations de l'esprit humain. Dans la suite de l'essai, je dégage les principaux traits qui caractérisent la nouvelle forme politique. Je n'en mentionnerai qu'un. La conquête du pouvoir par les Zhou et leurs alliés a eu une autre grande conséquence. Pour la première fois dans cette partie du monde, des vainqueurs ont institutionnalisé leur domination sur les populations vaincues pour la rendre durable. Les fondateurs des Zhou ont instauré à cette fin un régime divisé en 2 sphères, une sphère supérieure que j'ai décrite, celle de l'aristocratie, minutieusement hiérarchisée, étroitement unie par sa savante répartition des privilèges, des liens familiaux, des rites, et une sphère inférieure, celle de l'ensemble des populations soumises, fort différentes les unes des autres par leurs institutions sociales, leurs coutumes et leurs pratiques religieuses. Elles étaient libres de vivre comme elles l'entendaient, à la condition de rester soumises. De nouveau, les Zhou ne se sont pas contentés d'établir une domination de fait. Ils ont créé un ordre qui est devenu l'un des fondements de la civilisation chinoise, un ordre dont on retrouve l'empreinte dans la représentation du monde et jusque dans les catégories de l'entendement chinois. Nous pourrions dire, en des termes qui nous sont familiers, que la sphère supérieure, une et dominante, a représenté à partir de ce moment-là l'universel, et la sphère inférieure, divisée et diverse, le particulier. Les catégories chinoises qui rendent compte de ce rapport sont le ciel et la terre, ou le yang et le yin. En haut, le ciel ou le yang, qui est unifié et qui domine le divers en l'organisant. En bas, la terre ou le yin, qui est désuni, qui tend au désordre et qui a besoin d'être organisé. Pour comprendre les 2 notions de yin et de yang, il faut s'être aperçu qu'elles sont au fond des catégories sociopolitiques. On n'a pas encore suffisamment mesuré, me semble-t-il, à quel point le monde chinois a été marqué dans ses institutions, dans ses représentations et jusque dans les catégories de son entendement par cette division de la réalité sociale en 2 parties de nature différente, liées entre elles par des interactions aux formes asymétriques et mouvantes. Je ne serais pas étonné que l'on découvre un jour dans cette division un principe structurant, aussi déterminant, dans le monde chinois que le principe des 3 fonctions que Georges Dumézil a découvert dans le monde indo-européen. Fin de citation. En me livrant ce genre de réflexion, je suis devenu sensible à une dimension de l'histoire à laquelle d'autres sont peu attentifs. J'ai été frappé par la durée des schémas directeurs que je découvrais. Ils invitent à prendre en considération un temps long, voire très long. J'ai relevé que certains traits fondamentaux qui apparaissent au moment de la formation de la féodalité chinoise aux alentours de l'an 1000 avant notre ère, ont subsisté jusque dans un passé tout récent, voire jusqu'à aujourd'hui. J'ai observé que le schéma directeur qui s'est constitué à ce moment-là est devenu, en se transformant, le schéma organisateur de l'Empire. Ces considérations ont heurté certains de mes collègues sinologues, historiens de la Chine, qui, pour combattre le lieu commun d'une Chine immobile restée pareille à elle-même à travers les siècles, s'attachent à montrer à quel point le changement a été à l'œuvre durant toute son histoire. Ils ont 100 fois raison de se consacrer à cette tâche. Mais tort, je crois, de croire que mes réflexions vont dans un sens opposé. Je suis persuadé du contraire. Le temps long des catégories organisatrices n'exclut nullement le temps plus court des évolutions et des transformations socio-économiques, ni celui plus court encore de l'histoire politique, ni même celui de l'événement. Il se trouve simplement que j'éprouve un intérêt particulier pour le temps long des principes organisateurs, ou plus exactement, qu'après m'être beaucoup intéressé à l'histoire chinoise, non en historien professionnel que je ne suis pas, mais parce que j'avais à l'enseigner, mon attention s'est progressivement concentrée sur cette dimension-là du passé. Certains auteurs m'ont incité à aller dans ce sens. J'ai trouvé cette dimension dans les « Métamorphoses de la cité » de Pierre Manon, qui est une étude des principes politiques structurants et parfois défaillants qui ont déterminé dans la longue durée l'histoire de l'Europe. En diverses occasions, j'ai avancé l'idée d'une idéologie impériale qui s'est formée au cours du siècle qui a précédé la fondation de l'Empire chinois en 221 avant notre ère, s'est imposée avec lui et s'est maintenue jusque dans un passé récent, voire jusqu'à aujourd'hui par certains traits. Là encore, j'aurais été mieux compris si j'avais précisé sur quel plan je me plaçais, celui de la philosophie politique ou de l'étude de l'histoire des sociétés sous l'angle de leur constitution politique. Lefort a aussi remarqué que la philosophie politique est nécessairement comparative. Elle ne peut mettre en lumière les principes généraux d'une forme de société donnée qu'en les mettant en rapport avec ceux d'une forme de société différente. Tocqueville offre l'illustration la plus lumineuse de ce principe. Il a fait comprendre ce qu'avait été la société d'Ancien Régime et ce qu'était la société démocratique naissante en les opposant l'une à l'autre, et ne pouvait le faire autrement. L'un des mérites de Claude Lefort est d'avoir placé sur ce plan-là sa réflexion sur les régimes totalitaires et d'avoir montré que, pour les comprendre, il faut les appréhender dans leurs principes générateurs comme un renversement du principe générateur de la société démocratique, d'où il découle que les régimes totalitaires et la société démocratique s'excluent, certes, mais appartiennent à un même moment de l'histoire. Ces vues sont importantes pour quelqu'un qui étudie l'histoire d'Ancien Régime et de la Chine ancienne et veut comprendre et faire comprendre cette histoire. Il doit se garder de lui appliquer des catégories qui découlent des principes générateurs de notre société et n'ont de sens que par eux. Mais cela ne suffit pas. Il doit encore saisir les catégories qui avaient une fonction opératoire dans la société qu'il étudie et les rapporter aux principes générateurs qui leur ont donné naissance. C'est alors seulement que l'histoire de Chine prend son sens, non seulement pour le sinologue, mais pour tout homme de culture. Un sens ouvert, bien entendu, un domaine de réflexion. C'est aussi à ce moment-là que devient pleinement intelligible tel épisode de son histoire. Par exemple, l'un des grands moments de son histoire intellectuelle, la naissance de ce qu'on a appelé le néo-confucianisme, et que je préfère appeler le confucianisme philosophique, au XIe et XIIe siècle. Les débats de l'époque ont été très animés parce qu'ils avaient des enjeux politiques et portaient plus profondément sur les principes qui devaient donner forme à la société tout entière. C'est par la compréhension d'un épisode de ce genre que se vérifie la justesse des thèses ou des hypothèses générales que formule la philosophie politique. Elle formule des questions qui ont une portée universelle, posées dans des termes qui ne sont pas tributaires, qui ne sont tributaires d'aucune tradition intellectuelle ou culturelle particulière. De ce fait, la philosophie politique porte en elle le dépassement des problèmes culturalistes ou relativistes qui empoisonnent tant de débats. Son autre vertu est de se situer en deçà du cloisonnement des sciences humaines ou sociales et de rendre de ce fait à la pensée la liberté que nous admirons chez Montesquieu, Rousseau, Constant, Tocqueville, pour ne citer qu'eux, et dont il ne doit pas être interdit de s'inspirer. Parmi les questions universelles, parmi les questions de portée universelle qu'elle pose, il y a celle de la correspondance entre la forme du pouvoir et la forme de la société dans son entier. Claude Lefort a relevé la pénétration dont Machiavel fait preuve à cet égard, en particulier dans le discours sur la première décade de Tite-Live. Lefort a aussi rencontré dans Le Prince l'idée des deux humeurs opposées qui sont présentes dans toute cité, dit Machiavel, du fait que le peuple désire ne pas être commandé ni opprimé par les grands et que les grands désirent commander et opprimer le peuple. Chapitre 9. C'est le génie de Machiavel, dit Lefort, d'avoir perçu qu'une société est d'autant plus vigoureuse et vivante qu'elle tire parti des conflits qui l'animent au lieu de chercher à les nier. Je pense que ces intuitions de Machiavel donneraient une vie extraordinaire à une fresque des deux siècles de l'histoire chinoise qui précède l'unification impériale en 221 avant notre ère, et nous rendrait cette histoire aussi présente, parce qu'aussi intelligible, que celle de la Renaissance italienne. Une autre interrogation de portée universelle concerne le changement. Comment une nouvelle forme sociale se forme-t-elle ? Comment le passage d'une forme à une autre s'opère-t-il ? À première vue, il semble que ce genre de transformation s'accomplit progressivement dans les profondeurs du corps social et n'obéit à la volonté d'aucun acteur, que ce soit un individu, un groupe ou une classe. Mais ce serait une erreur d'exclure l'action consciente de certains protagonistes, voire la possibilité d'une véritable invention historique de leur part, survenant à certains moments cruciaux et donnant une orientation nouvelle au cours des choses. Dans le bref essai sur l'histoire chinoise que j'ai mentionné tout à l'heure, j'ai avancé l'hypothèse que l'apparition de la féodalité aux environs de l'an 1000 avant notre ère est due à une telle invention historique qui a été le fait d'un conquérant victorieux et de son conseiller, si l'on en croit les sources, et plus probablement d'un petit groupe de personnes. Cette hypothèse ne pourra sans doute jamais être vérifiée faute de matériaux suffisants. Elle a pour elle, selon moi, qu'on ne voit pas comment les choses auraient pu se passer autrement. Le passage à l'Empire semble représenter un cas de figure différent. Dans une étude récente que je trouve remarquable, mon ami Jean Levy suggère que la forme de la société féodale chinoise, qui était devenue une forme idéale, déconnectée de la réalité chaotique de l'époque, est devenue, par une transformation interne, la matrice de la forme impériale. Au fond, une forme vidée de son contenu se serait muée en un rêve collectif devenu ensuite réalité. Cette mue aurait été l'œuvre collective d'une majeure partie des classes dirigeantes de l'époque. Ce qui n'exclut pas, Jean Levy le sait mieux que quiconque, une action décidée et décisive de certains protagonistes, parmi lesquels il faut citer en premier lieu le premier empereur Qin Shi Huang et plus encore son premier ministre Li Si. Je pense qu'une réflexion de cet ordre est indispensable si l'on veut se détacher des faits pour les comprendre véritablement et donc leur trouver un sens. Je pense qu'une réflexion du même ordre est indispensable pour comprendre l'histoire récente de la Chine. Depuis un peu plus d'un siècle, deux formes du politique ou de la constitution politique du social, l'une chinoise, l'autre occidentale, s'y affrontent en un conflit violent qui est loin d'avoir trouvé son issue et dont la résolution déterminera en profondeur la suite de l'histoire, celle de la Chine et la nôtre. Le temps étant très étroitement mesuré, je passe sur d'autres questions que pose la philosophie politique, celle de la possibilité d'exercer une action consciente sur l'évolution d'une société politique, voire sur sa transformation en une autre société politique, et celle des jugements de valeur que l'on peut porter sur les sociétés politiques. Voici pour finir quelques remarques qui me serviront de conclusion. J'ai évoqué tout à l'heure la situation dans laquelle se trouvent les études chinoises et la perte de sens dont elles souffrent selon moi. J'ai proposé d'y remédier en y introduisant une dimension qui leur manque, celle de la philosophie politique. Les études chinoises disposent désormais en abondance des matériaux qu'il faut pour alimenter une réflexion de cet ordre. L'effet devrait être double. Donner vie au passé chinois en l'incluant dans le champ d'une telle réflexion et enrichir cette réflexion. Pour cela, pas besoin de se lancer dans de grands travaux, d'ouvrir des chantiers. Il suffit, dans un premier temps, de poser les questions pertinentes et de se livrer à partir d'elles à une interrogation raisonnée et soutenue, consciente de sa démarche propre. À terme, une telle entreprise pourrait avoir un effet dans l'esprit du public et, par un effet de retour, sur les études chinoises, mais aussi sur nos relations avec la Chine. Elle pourrait contribuer à préparer un renversement de la tendance actuelle, où se conjuguent le discours économique, l'amnésie qui va de part avec lui, et, comblant le vide, une propagande indigente et indigeste sur la grandeur passée de la Chine. Elle pourrait rétablir, de façon discrète, ce que Paul Valéry appelait le « commerce des esprits », qui a été interrompu alors qu'il naissait à peine durant les années 20 et 30 du siècle passé. L'Europe et la Chine ont deux traditions historiques et politiques très différentes, certes, mais qui ont des dimensions comparables et non pas d'équivalent ailleurs dans le monde. Il importe beaucoup pour l'avenir, je crois, qu'au lieu de s'opposer dans leurs discours respectifs, elles s'unissent sur le plan de la réflexion. Je sais que la montée du nationalisme chinois crée une situation qui n'est pas favorable à cette idée. Mais je vois là une raison de plus de la défendre. Cela d'autant plus que les intellectuels chinois se trouvent dans une situation difficile, du fait que certaines conceptions universalistes sont venues d'Occident, ce qui les rend faciles à attaquer dans l'opinion chinoise et pour eux difficile à défendre. C'est une tâche absolument essentielle de réfléchir avec eux à ces questions, s'ils le veulent, et de les clarifier d'abord pour nous-mêmes, ce qui, selon moi, ne peut se faire que sur le plan de la philosophie politique. Cette réflexion commune me paraît aussi souhaitable, voire indispensable, pour une autre raison. N'est-il pas évident que ni l'Europe ni la Chine n'ont trouvé la forme politique dont elles ont chacune besoin? Et n'est-il pas évident, lorsqu'on considère les déséquilibres et les dérèglements qui affectent la société mondiale actuelle et menacent son avenir, que nous devons lui donner une forme nouvelle et qu'il est impossible de concevoir cette forme dans le cadre des disciplines isolées telles que la science politique, le droit ou l'économie? Il me semble que la philosophie politique est irremplaçable dans cette quête à cause de la radicalité des questions qu'elle pose et de sa façon de prendre appui sur l'expérience historique. Il me semble aussi qu'en vertu de l'universalité qu'elle porte en elle, elle constitue un lieu privilégié pour le commerce des esprits qui doit naître entre l'Europe et la Chine.
Vous venez d'entendre Jean-François Billetter. Le texte de sa communication est disponible sur le site de l'Académie des sciences morales et politiques www.asmp.fr. Toutes les communications de l'année 2012, série intitulée par la présidente Marianne Bastide-Bruguière « Asymétrie et force neuve du monde actuel », toutes sont enregistrées par Canal Académie, disponibles à l'écoute et au téléchargement et en libre accès permanent.